les jardinières.
Et salut tout le monde et bienvenue dans les jardinières. Ce week-end de mi-février nous offre une petite parenthèse de douceur, un petit coucou du printemps qui fait rudement du bien à notre morale. Du coup, on est pressé de faire le plein de bons conseils de si bon matin, des conseils qui nous serviront au jardin. Et elle est de retour pour m'accompagner jusqu'à 8h. Bonjour Sophie.
Bonjour Stéphanie, de retour et en pleine forme pour partager cette heure avec vous. Mais sans notre jardinier professionnel du jour, rien ne pourrait se faire. On accueille avec un grand plaisir Olivier Ribaud, le patron d'Olivier Pépinière à Queuves. Bonjour Olivier.
Bonjour à vous.
Nous sommes le 16 février 2019 et le printemps s'invite donc ce week-end. Mais bon, ne soyons tout de même pas trop pressés, l'hiver est encore loin de s'achever. Ce qui ne nous empêche pas, comme tous les samedis, d'entretenir avec soin votre passion du jardinage. Que peut-on planter à cette saison? Que faire au jardin en ce moment? On fait le plein de bons conseils et on répond évidemment à toutes vos questions en compagnie d'Olivier Ribaud.
Des questions que vous pouvez lui poser dès maintenant et en direct. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Tout d'abord, il y a notre standard téléphonique au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Olivier vous répondra personnellement et en détail. Vous pouvez aussi opter pour le SMS en envoyant le mot jardin suivi d'un espace et de votre question. Vous envoyez le tout donc au 939. Il existe également un formulaire que vous trouverez sur nos sites sous l'onglet émission questions aux jardinières. Et si vous choisissez l'option SMS ou formulaire, je vous le rappelle, n'hésitez pas à bien détailler votre problème afin que la réponse puisse être développée au maximum.
Et je crois qu'on a fait le tour, tout est dit, les jardinières, c'est parti.
Les jardinières, Sophie et Stéphanie.
Et la première question de la matinée nous vient de Frédéric. Dans son jardin, il a deux cerisiers qui ont malheureusement des vers blancs assez petits qui envahissent ensuite les cerises. Alors en tant que gourmand aguerri, il est désespéré car il doit faire une croix sur les confitures et les tartes. Pour prendre de l'avance, cette année, il voudrait savoir s'il peut traiter ses arbres pour espérer avoir de bonnes cerises, Olivier.
Alors oui, bien sûr, c'est un problème un petit peu général. Des fois, des années, on retrouve ces petits vers blancs dans nos fruits, surtout la cerise. Alors il peut déjà faire un premier traitement, je ne suis pas une personne qui serait très favorable à faire que des traitements sur des arbres fruitiers personnels dans les jardins, mais un premier traitement pour éradiquer tous ces parasites qui auront pu hiverner pendant la période de l'hiver sur nos arbres, c'est faire un traitement au débourrement, ça veut dire quand les premiers bourgeons vont commencer de vraiment bien gonfler. En principe, c'est une période qui se trouve entre début mars et mi-mars, jusqu'à fin mars, selon les années. Et puis là, c'est un traitement à base d'huile d'hiver, on appelle ça, on trouve ça dans les commerces. C'est un produit qui n'est pas chimique, en fait, c'est une huile qui va être aspergée sur vos arbres fruitiers, cerisiers et pommiers ou tout autre arbre, on peut tous les faire. Et puis ça va englober le parasite, le cocon de ces parasites qui seront restés pendant l'hiver et qui vont les empêcher de s'éclore et s'épanouir pour la saison. Ça, c'est le premier traitement qu'on peut faire, le plus simple et puis le moins toxique, je dirais, le plus pratique à faire dans nos jardins. Après, par contre, s'il veut encore lutter contre ce ver de la cerise, alors là, il y a un traitement à faire qui est de nouveau... Il y a plusieurs produits qui existent, donc je dirais qu'il faudrait quand même regarder où il ira acheter son produit, la période favorable pour faire ça. Mais en principe, on va faire ça juste après la floraison. Quand la cerisier il aura laissé tomber ses pétales, à ce moment-là, on va faire le premier traitement contre le ver de la cerise. Et c'est pour empêcher une mouche de pondre un œuf, justement, qui va après s'éclore dans son fruit futur. Mais ça va se trouver dans une période de mi-juin jusqu'à
voilà,
fin juin.
Voilà ce que j'allais demander. Ouais, vers le...
Dans la période où c'est que les arbres fruitiers, l'année passée c'était un peu plus tôt, c'était fin mai déjà. Donc ça dépendra après, il y a des stades à respecter par rapport à ça. Et ça c'est le produit qui décide quand c'est qu'on le fait.
Et par rapport aux grosses chaleurs qu'on a eues l'année dernière, est-ce que ça a peut-être une incidence là-dessus ou pas du tout?
Alors la chaleur je dirais pas, par contre... On a déjà beaucoup parlé sur les arbres fruitiers depuis l'année passée. Ce qui a le plus été une incidence sur les arbres fruitiers, c'est qu'il y a eu beaucoup de récoltes l'année passée. Donc cette année, théoriquement, on en aura moins. Et puis, on favorise la taille cette année des arbres fruitiers encore maintenant, ce qui peut encore être fait. Les cerisiers, on en a fait encore quelques-uns des petits ces derniers jours. il faudrait vraiment les faire le plus rapidement possible parce que la cerise, les bourgeons ont déjà bien changé, ils gonflent déjà, la sève est déjà remontée parce qu'il ne fait pas très froid non plus. Donc les cerisiers, il faudrait arriver gentiment à la fin. Par contre, après, pommiers et autres fruitiers, ça peut encore être fait pendant une bonne petite période d'un mois, sans problème.
On poursuit en parlant de fleurs avec Paula de Neuchâtel qui souhaite savoir à quel moment planter les bulbes de narcisse, de tulipe en jardinière.
Logiquement, le bulbe de narcisse se plante à l'automne. Ça peut être encore possible de trouver quelques bulbes de tulipe, mais qui ont été, on dira, hivernés dans des endroits froids. On peut trouver des tulipes, on peut planter des tulipes à cette saison. C'est-à-dire que les bulbes, ils ont été conservés dans un frigo pour qu'ils restent à l'état repos. Et puis maintenant, les mettre, les planter en pot, en jardinière ou en bac, vont directement rentrer en végétation et puis faire leurs feuilles assez rapidement. Mais normalement, le bulbe se plante à l'automne jusqu'au mois d'octobre. C'est à ces périodes-là qu'on les trouve et qu'on peut les mettre soit en pot, soit en jardinière, soit en bac.
Et si on les plante carrément dans la plate-bande, ça change à quoi ?
Alors ça change rien. On peut, bien sûr. La question, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas de jardin ou pas de plate-bande. Mais si on les met directement au jardin, après, on peut les laisser dans son jardin, dans la terre, sans forcément les ressortir. Et ils vont se multiplier. Et puis après, là, ils vont grandir et en avoir chaque année plus, avec plus de fleurs.
Ah oui, c'est magnifique, d'où l'intérêt justement de bien prendre soin de les planter à l'automne. Comme ça, on est sûr qu'on en a et puis que ça se propage.
Voilà, c'est plus pratique. Et puis surtout les jonquilles, les narcisses, comme elle le dit, on les laissera dans le sol. Par contre, des fois, il y a des gens qui plantent des tulipes et qui les renlèvent. Alors, on les renlève, on les sèche et on les replante l'année suivante. Avec le temps, la floraison va diminuer parce que le bulbe va diminuer. Donc si on a la possibilité d'avoir un jardin, une plate-bande, c'est de les laisser et puis de se multiplier eux-mêmes à l'état naturel.
Merci Olivier Ribaud, je rappelle que vous êtes avec nous jusqu'à 8h. Vous qui nous écoutez de si bon matin, déjà merci d'être avec nous. Hein. On a plusieurs moyens pour poser les questions, n'est-ce pas Sophie ?
Oui, vous pouvez le faire par écrit, vous pouvez nous envoyer un SMS au 939, c'est tout simple, vous écrivez le mot jardin au début de votre message et ensuite vous tapez votre question. Vous pouvez aussi trouver le formulaire sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. Si vous choisissez donc cette option écrite, détaillez bien votre problème, comme ça Olivier peut y répondre le plus précisément possible. Et sinon, il y a toujours le téléphone 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute.
7h, 8h, les jardinières.
Et pendant la pause musicale, on a eu un téléphone, on a quelqu'un en ligne. C'est Thierry de Failly qui a une question pour vous, Olivier, concernant les graines de passiflore. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Bonjour Thierry.
Bonjour à vous.
Bonjour. Alors, salut Olivier, c'est Thierry de Failly là.
Oui, salut.
Hein ? Donc, j'ai acheté des graines de passiflora.
Oui.
Et puis, je voulais savoir si on peut les planter maintenant, dans quel terreau, puis comment on les expose dehors après.
Alors oui, bien sûr, vous pouvez déjà commencer de les planter maintenant. Pour juste un petit rappel, les graines de passiflore, c'est en fait, on trouve ça dans le fruit de la passiflore, pour ceux qui ont déjà vu des fleurs de passiflore. Après la floraison, ça fait une espèce de gros fruit un peu orange. Et là, à l'intérieur, il y a des graines et qu'on peut les récupérer, bien sûr, les faire sécher. Et vous, si vous les avez achetées, elles sont sèches, je pense, déjà maintenant. Alors, pour les semer, vous pouvez les mettre trempées une nuit ou même un jour et demi, dans de l'eau tiède, pas trop chaude, mais tiède. Vous allez juste les tremper pour les humidifier. Elles vont se gorger d'eau, elles vont commencer à devenir un peu moins dures. Et puis après, vous allez les semer dans une petite jardinière ou dans un grand pot, ça dépend de la quantité de graines que vous avez, mais il faudrait laisser entre chaque graine, parce qu'elles sont quand même un petit peu grandes, on les voit, elles sont un tout petit peu plus petites qu'un petit pois. Vous allez les semer tous les 2-3 cm l'une de l'autre, pour les mettre dans un terreau. Vous pouvez acheter un terreau de semis, par exemple, et puis vous allez poser ces graines, et puis juste les recouvrir de la hauteur de la graine, de la même épaisseur de la graine, vous allez remettre du terreau dessus. Et puis après, vous allez bien les arroser. Et puis par-dessus votre caisse ou pot que vous avez fait, vous pouvez mettre une petite plaque de verre. pour garder l'humidité sur cette caissette de semis. Et puis vous allez garder ça à l'intérieur au chaud, donc à 18-20 degrés, jusqu'à ce que vos graines germent. Et puis bien sûr, en observant que vous soyez toujours avec une humidité assez constante, parce que pour qu'elle germe, il faut que ça puisse être bien humide et pour arriver à faire éclore vos graines.
D'accord. Après, quand on les replante dehors, il faut qu'elles aient quelle taille à peu près ?
Alors, une fois qu'elles auront germé, il faut arriver à les garder encore, je dirais, un mois dans votre caissette, que vous ayez un joli petit plantule de 2, 3, 4 cm, que vous pouvez déjà replanter dans un pot un petit peu plus grand, mais toujours à l'intérieur. Et puis, quand vous allez les mettre à l'extérieur, alors il faut vraiment être sûr que le temps soit beau et puis qu'il ne va plus geler, donc ce sera vraiment mi voire fin mai, et puis là vous allez les mettre dehors en jardinière ou en pot à un endroit très ensoleillé, parce que c'est une plante de chaud, de sec. Après vous allez vraiment les mettre où il fera le plus chaud possible pour qu'elle puisse grandir et puis grimper sur un petit support.
D'accord, merci beaucoup, belle journée à vous.
Allez, salut, merci à toi, merci,
au revoir.
Et vous aussi, vous pouvez nous appeler en 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute, comme vient de le faire Thierry, pour poser votre question directement à Olivier Ribaud. On vient de recevoir une question par SMS cette fois-ci, une question de Marie de Couvet, qui voudrait mettre une haie fleurie en guise de clôture devant sa maison. Alors, qu'est-ce que vous lui conseillez comme arbuste, Olivier ? À quelle distance aussi faut-il planter ces arbustes ?
Alors, La haie fleurie est possible d'être installée pour justement faire une séparation, une haie, une barrière. Il y a plusieurs essences d'arbustes à fleurs qui peuvent être utilisées. Je peux donner des exemples. Forsythia, une spirée, un deutzia. On a des végélias. On a vraiment beaucoup d'arbustes à fleurs qu'on peut panacher. On peut même mettre avec ces arbustes à fleurs des arbustes qui vont faire que des feuillages. Ça veut dire, par exemple, un cornouiller qui fera un feuillage vert et blanc, ou un arbre à perruque, cotinus, qui fera un feuillage rouge ou un érable. On peut mélanger tout ça. Après, ça dépend de la place qu'elle a, parce que si elle a une surface qui est très restreinte, cette haie va quand même prendre un certain volume de 1m20 à 1m50 de large.
Ça grandit en plus.
Ouais. Donc ça demandera beaucoup de taille. Et puis si elle les taille trop fortement parce que ses arbustes deviendront trop grands, elle aura peu de fleurs, donc elle sera déçue. Donc après, il faudrait peut-être voir avec une personne qualifiée sur place si le genre d'espèce qu'elle peut utiliser pour faire ça. Et alors, soit elle va utiliser plusieurs essences, comme je les ai citées, ou soit elle va utiliser une essence unique, comme par exemple le forsythia, qui s'utilise très facilement en haie. Ou alors après, elle va utiliser une petite spirée qui fleurira rose, mais qui viendra seulement à 80 cm, 1 mètre de haut. Et puis qu'elle fera une haie unique, donc ça veut dire tout avec la même essence. Et puis comme ça, elle pourra tous les tailler de même grandeur, de même style. Mm-hmm. Et puis ça, elle sera uniforme et elle sera peut-être plus petite. Donc ça dépendra un petit peu de l'espace qu'elle aura pour utiliser une essence appropriée à cet endroit. Parce qu'on peut faire des haies fleuries mélangées, comme je l'ai dit, ou alors vraiment faire des haies fleuries très composées, de vraiment différentes grandeurs et puis volumes. Donc c'est ça qui... C'est sa place qu'elle aura qui nous donnera un peu l'essence à utiliser.
Donc c'est bien qu'elle regarde avec un professionnel pour ça.
Alors ce serait bien, ou bien surtout c'est pour donner des conseils, après elle peut le faire elle-même, j'entends, mais ce qu'il y a c'est ça, c'est qu'elle parte dans une bonne essence de plante. Parce qu'après si elle peut faire une haie fleurie, qui est beaucoup moins intéressante, comme du troène ou bien des choses comme ça, mais ce sera vraiment une haie très, très ramifiée, très, très compacte. Donc c'est sa place qui nous dira ça.
Merci Olivier Ribaud, vous êtes avec nous encore pendant une bonne grosse demi-heure. Sophie, on va faire une petite pause musicale. On peut bien sûr transmettre les questions par SMS 939 avec le mot jardin, un espace, votre question, et le 0901 70 20 20.
7h, 8h, les jardinières. Les jardinières.
Et de retour pour cette deuxième partie des jardinières, justement, jusqu'à 8h, on répond à toutes vos questions jardinage. Et pour ça, Sophie et moi, on est bien accompagnés. Ce matin, c'est Olivier Ribaud, pépiniériste à Queuves, qui nous accompagne. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez.
Et vous le savez, les jardinières, c'est votre émission. Quelle que soit votre question, vous pouvez la poser au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous aurez ainsi l'occasion de discuter directement avec notre professionnel Olivier Ribaud. Mais on lit également vos SMS. Pour rappel, il vous suffit d'indiquer le mot jardin, vous laissez un espace et puis vous tapez votre question et vous nous envoyez le tout au 939. Et sur notre site, vous trouvez aussi un formulaire à remplir sous l'onglet émission. Question jardinière, et dans les deux cas, n'hésitez pas à bien détailler votre problème.
Et pour Noël, Philippe a reçu un petit sapin. Il a acheté un petit sapin d'environ 60 cm de type Norman. Il est dans un pot. Il voudrait le garder au jardin. Que doit-il faire pour que la plantation se passe au mieux? Quel emplacement choisir? Quel est le meilleur moment pour le mettre en terre? À noter, Olivier, qu'il est encore dans son pot depuis Noël. Et justement, il se demande s'il a bien fait de le laisser ou pas.
Alors oui, il a jusque là maintenant l'avoir laissé dans ce pot jusqu'à maintenant, c'est bon. J'espère qu'il est au moins arrosé une ou deux fois dans les périodes où c'était un peu moins froid que maintenant. Et puis à cette saison maintenant, ce serait idéal qu'il aille le planter en pleine terre au jardin. D'ailleurs, c'est un petit peu le travail aussi que nous, en professionnel, on va faire ces prochaines semaines. On va replanter des nouveaux petits plants de sapin de Noël. Donc c'est vraiment la bonne période. Donc il va enlever son pot, il va reprendre sa motte de sapin, faire un bon trou et puis le planter. Pas trop profond non plus, il ne faut pas qu'il vienne enterrer les branches du bas du sapin. Donc juste mettre le système racinaire en terre avec un bon substrat, s'il a de la terre de jardin ou s'il a un peu de terre qui est prête à préparer, un peu de compost mélangé, et puis planter son sapin, bien tasser la terre autour des racines, l'arroser une fois pour remettre un peu d'humidité, et puis après le laisser grandir comme ça sans problème.
Ça grandit beaucoup un sapin si on lui laisse de la place.
Alors la première année de plantation, donc il va reprendre, il va refaire des nouveaux bourgeons, mais il va quasi pas faire de pousses supplémentaires. Et puis après, bien sûr, chaque année, il va grandir. Les premières années, 3, 4, 5, 10 cm si ça se passe bien. Mais après, une fois qu'ils sont bien démarrés, ils font 30 à 50 cm de pouce. Et puis après, un sapin Norman, on en a coupé quelques-uns, nous, il n'y a pas très longtemps, pour Noël, justement, pour des branches. Et comme ça peut venir à 15 jusqu'à 18 mètres de haut si on le laisse pousser sans jamais les tailler. Alors, c'est aussi un petit peu le choix de où il plantera. Et ce qu'il voudra en faire, ça veut dire qu'il faut quand même prévoir que c'est un sapin, comme les sapins de forêt, ils peuvent venir avec un tronc de 50 cm de diamètre, donc assez grand, assez conséquent, donc il faut faire attention.
Puis ça peut envahir les autres arbres à côté, si on ne laisse pas assez de place, par exemple.
C'est un sapin, c'est un arbre dominant, donc automatiquement, il va prendre un peu le dessus, et puis il ne va pas les envahir, mais il va les empêcher de se développer, et puis c'est celui-là qui va prendre le dessus. Donc c'est un sapin, donc c'est vraiment un arbre dominant.
On parle rarement de champignons dans les jardinières, mais ce matin, on a une question à ce sujet, Olivier. C'est une question de David qui constate que chaque année, des champignons non comestibles poussent spontanément dans son jardin. Et il se demande s'il serait possible d'en faire pousser des comestibles, et si oui, comment est-ce qu'il faut s'y prendre?
Alors, oui, c'est le problème des champignons. On a plus de champignons qui ne sont pas comestibles. Alors bien sûr, il va trouver dans le commerce, au jour d'aujourd'hui, on trouve des mycéliums. Le champignon, ça se multiplie par mycélium, donc c'est la racine du champignon. C'est des spores qui se retrouvent dans le sol. On peut acheter ces mycéliums sous forme de dans une boîte. Et c'est des mycéliums essentiellement de champignons de Paris, les petits champignons blancs. Mais par contre, il ne va pas pouvoir les faire pousser à l'extérieur. Il devra les faire pousser dans un bac ou dans une caisse ou dans un endroit où il peut mettre un peu de terreau, tout expliqué dans la boîte, et puis il va mettre de l'humidité, il va mettre ça à la cave, et puis ça va y faire des petits champignons. C'est des petites expériences qui peuvent être faites, ça fonctionne, mais c'est pas une culture de champignons comme il verra les champignons qui poussent naturellement dans la forêt ou dans les champs. Cette année, on a eu beaucoup de champignons à l'automne, de champignons blancs. C'est des années, c'est des cycles, on ne pourra pas changer ça. Il y a des champignons qui se multiplient plus facilement que d'autres, mais il pourra pas avoir autant de champignons ou de morilles dans son jardin que ces champignons sauvages qui veulent pousser tout seul.
Parce que par exemple, quand on achète des champignons de Paris en magasin, bah forcément, ils sont, je pense, cultivés en grande masse.
Tout à fait, ils sortent de champignonneries qui sont cultivées, qui sont dans des anciens fours, des anciennes caves, des anciens tunnels. Ça se multiplie, ça fonctionne. Mais après, il y a une connaissance là-dessus qui est un petit peu quand même à être étudié, mais on trouve des petits emballages où c'est qu'il y a une petite documentation, il faut mettre ça à la cave avec beaucoup d'humidité, ça fonctionne, ça donne quelques champignons. Ouais.
Et comme vous dites, ça fait une expérience à faire. Hein.
Voilà.
On va parler de célosie et de sauge en pot.
Ah, ça c'est un domaine floral.
Voilà, c'est Grégory de Murio qui nous dit qu'il a ces deux plantes-là, donc une célosie et une sauge en pot. Par contre, elles ont pris un sacré coup de froid ces dernières semaines. Sa question est simple, il les a rentrées, il a taillé les bras morts, mais il se demande si elles vont repartir.
Alors la célosie, célosia et la sauge, donc le salvia, si c'est ceux que, parce qu'il y a quand même beaucoup d'essences différentes, mais si c'est ceux que je pense, au niveau floral, c'est une plante annuelle, donc c'est une fleur d'été, même s'il les a eues la saison passée, je dirais qu'il les avait plantées en belle saison d'été, mois de mai-juin, il les a fait grandir, peut-être qu'il les a mis dans des pots, puis maintenant il les a rentrées. C'est pas une plante qui peut vivre plus qu'un cycle, donc une année. Alors maintenant, elle est en bout de vie, sa plante. Soit il faut en ressemer, soit il faut faire des fragments. Mais ces plantes-là se sèment, donc la célosie, la sauge sont des plantes qui se multiplient par graines. Donc sa plante arrive en bout de vie, elle va sécher, les fleurs vont sécher. Il ne fera pas assez chaud, pas assez sec dans son univers là où ils sont maintenant. Donc il n'arrivera pas à refaire des graines avec ces plantes-là. Je pense qu'elles vont dépérir et il sera obligé de recommencer avec des nouvelles plantes de la même variété. Ça, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas une plante qui est faite pour être gardée plusieurs années comme une plante verte, comme un ficus ou comme un yucca. C'est une plante annuelle, c'est son nom le veut dire. Parce qu'après, on a des plantes florales qui sont cultivés, qu'on peut garder d'année en année, mais ce sont des, on appelle ça une plante molle, c'est une plante qui est cultivée chez nous pour une année, mais que dans son pays d'origine, elle peut résister plusieurs années. Mais sinon, une fleur annuelle qui se sème chaque année, comme il a la sauge, il est obligé de recommencer chaque année.
On a une question de Livio de Sérénier, je vous la lis, c'est... Ça concerne une mare naturelle. Je possède une mare naturelle d'environ 30 mètres carrés. Des iris sauvages jaunes sont venus s'y implanter. L'eau semble avoir un bon équilibre. On y trouve des larves de tritons, de libellules, des têtards et plein d'insectes. Il y a aussi des poissons et des grenouilles vertes. Mais depuis le printemps dernier, la mare est envahie de lentilles d'eau qui, avec la chaleur de l'été, se sont multipliées à grande vitesse. Une pompe programmée déverse un jet d'eau provenant d'un puits. Que pouvez-vous me conseiller afin que ces lentilles ne réapparaissent pas avec les beaux jours ?
Alors le domaine biotope, c'est un domaine qui est très vaste, très particulier. C'est clair que, comme il l'explique là, la lentille est venue, comme il l'a dit, par le chaud de l'année passée. Théoriquement, elles sont déjà... pendant l'hiver, elles s'atténuent naturellement parce que c'est une plante qui s'est propagée pendant la belle saison d'été. Donc c'est comme avant, c'est une plante d'été qui devrait geler une partie pendant l'hiver. Donc c'est au printemps, s'il revoit ses lentilles réapparaître trop massivement, ce serait à mon avis de les récupérer avec une épuisette, un écumoir au maximum pour qu'ils n'en viennent pas trop. Sinon, après, il peut vider son bassin, mais comme il explique, il a l'air d'avoir beaucoup de plantes, donc il va rester des lentilles un petit peu accrochées un peu partout. Donc il a que le moyen manuel, donc avec un récipient, une épuisette ou un bidon pour récupérer un maximum de ces lentilles pour ne pas les laisser propager. Mais je pense que si elles sont venues, c'est parce que son eau était stagnante ou peut-être qu'il a même oublié que la pompe ne marchait pas. Mais s'il y a vraiment un flux d'eau, normalement dans un biotope, ces lentilles ne peuvent pas rester. Elles sont vraiment là si l'eau elle est stagnée, chaude et puis pas assez de nouvelle eau. Donc s'il les ramasse bien, je pense qu'elles devraient cette année passer sans en avoir trop.
Merci Olivier Ribaud. Je rappelle que vous êtes avec nous encore pendant... Allez. 10 bonnes minutes pour poser vos questions, vous qui nous écoutez. Vous êtes dans les jardinières et Sophie, vous allez nous rappeler justement comment les gens peuvent poser leurs questions.
Vous pouvez soit prendre votre téléphone et nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Sinon, vous pouvez également opter pour une version écrite, soit par formulaire que vous trouvez sur notre site internet, ou sinon le SMS hein, au 939, vous écrivez le mot jardin, vous laissez un espace et vous tapez votre question.
Les jardinières.
Et un SMS anonyme reçu pendant cette pause musicale. J'avais l'idée de mettre des hippomées et œil de Suzanne en sac suspendu. Est-ce que c'est possible de le faire malgré le fait que ce soit des plantes grimpantes, Olivier?
Oh là là, j'avais complètement oublié, excusez-moi.
Avec le micro, c'est petit, mieux, on entend mieux.
Petit moment voilà. De solitude, allez-y Olivier.
Pas de souci. Oui, alors le principe du sac suspendu, c'était un petit peu aussi pour ça qu'on a un petit peu des rigolades. C'est un récipient, c'est comme un pot, ou c'est un sac en fait, c'est un sac en nylon, comme on trouve maintenant, on peut même les faire avec les sacs de commission qu'on achète dans les grands magasins. Vous le remplissez de terre et puis il y a des trous et puis vous allez planter des petites plantes dedans et puis c'est de là que partira les fleurs et puis elles vont grandir là-dedans. Donc c'est un sac à suspendre. On accroche ça après les poignées de volets ou comme ça. Alors bien sûr, l'œil de Suzanne et l'hippomée, c'est aussi le sujet qu'on discutait. C'est deux magnifiques fleurs qui sont à la base des plantes grimpantes. Donc l'œil de Suzanne jaune ou orange, ça pousse en une saison, au bas mot d'1,50 m à 2 m de long si on le plante au sol et puis qu'on le fait grimper contre un mur sur un support. Donc il faut quand même y mettre un support. Donc si elle le met dans un sac suspendu, c'est possible. Au lieu de grimper, elle va descendre, elle va s'entremêler. Et puis si elle le met encore à un endroit où c'est qu'il y a peut-être une petite barrière en dessous, alors ça va descendre, ça va s'agripper après tout ça. Et puis sinon, à l'état naturel, ça va faire un amalgame de branches et puis plein de fleurs. Donc ça, c'est possible. Et puis l'hippomée, c'est pareil, c'est possible aussi. L'hippomée, donc là, avec une belle grande fleur bleu ciel, qui fleurit normalement en une journée, peut-être une journée et demie, mais c'est en toutes les nuits, elle se fane, et puis c'est des nouvelles qui reviennent la journée suivante. Alors ça, c'est possible aussi. Son seul souci, c'est qu'il faudra qu'elle trouve des hippomées ou des œils de Suzanne petites, pour qu'elle puisse les mettre dans ces petits trous de son sac à poche, donc qu'elle puisse les planter là-dedans. Parce que souvent, dans le commerce, elle va trouver des hippomées ou les hippomées, elle peut les trouver en graines, donc elle pourrait les mettre en graines, mais les œils de Suzanne, elle va les trouver en plantes qui sont déjà peut-être déjà pré-cultivées sur des bambous, des bâtons. Quand on les cultive, nous, on serre, l'œil de Suzanne a déjà 30 ou 50 cm quand elle l'achète. Ou alors vraiment trouver des œils de Suzanne qui sont sans support pour qu'elle puisse les mettre là-dedans. Donc ça, c'est possible.
Et il y a des endroits privilégiés peut-être pour ces fleurs-là où alors,
c'est deux fleurs annuelles qui supportent bien les endroits très ensoleillés, très chauds, au soleil. Ça fleurira très mal si elle les met à l'ombre, au nord, ça c'est pas bien. Mais au plein soleil, ça pousse très très bien.
On a reçu encore une petite question de Pascal qui a des framboisiers. Elle aimerait les tailler, mais par contre elle ne sait pas comment faire, ni quand le faire.
Alors, je vais commencer par la fin de votre question. Quand, ça se fait maintenant, sans problème. Donc, on peut tailler les framboisiers. Et le comment, c'est... on a deux variétés principales de groupes de framboises bien différentes. Donc, on a les framboises qu'on dit, nous, quatre saisons, remontantes. C'est ces fameuses framboises qu'on peut planter. Et ils vont pousser, ils vont donner le fruit sur le bois de l'année. Donc, on va tout couper les rameaux. Et maintenant, pendant la saison, ils vont repousser et redonner des fruits. Mais ces fruits vont venir à partir du mois d'août jusqu'à l'automne. Donc, et puis, la deuxième variété de framboises sont des framboisiers qui poussent pendant une année. Ils ne donnent pas de fruits sur la tige. Et on va garder ces tiges pour l'année suivante. Et c'est l'année suivante qui donneront les fruits. Et on élimine chaque année, comme maintenant, les branches qui ont donné les fruits l'année passée. Donc le plus simple pour savoir, c'est que si elle a des framboises août, septembre, octobre, donc c'est des framboisiers qui sont remontants, donc c'est qu'elle a une variété de framboises qu'elle peut couper l'ensemble des rameaux depuis maintenant jusqu'en avril sans problème.
Pardon. Merci. Merci Olivier, on termine avec la question habituelle. Hein. Nous sommes le 16 février, il fait beau mais on est encore en plein milieu de l'hiver. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans le jardin en ce moment ?
Ben, on continue essentiellement dans les tailles d'entretien. Ben, on le voit, les framboises, tout ce qui est petits fruits. Tailler la vigne maintenant, on peut commencer à tailler les vignes. Et puis, ben, je dirais, comme on l'a vu en début d'émission, tout ce qui est art fruitier, pour ceux qui en ont déjà fait, il n'y a pas de problème. Mais on va continuer. Tout ce qui est cerisier, ça va être quasi terminé. Puis après, ben, encore tout ce qui est pommier, les grands arbres, ça peut encore être fait pendant un mois sans problème. Puis ben, dès que le sol se ressuit, ben, on commencera d'un petit peu gratter dans les jardins ou dans les petites serres pour mettre les premiers plants de salade ou les choses comme ça.
Ah, les petites serres, on peut déjà commencer à...
Les petites serres, maintenant, ouais. Avec les coups de soleil qu'on a la journée, on peut déjà commencer gentiment d'ici 15 jours, début mars, de planter les premières salades de printemps.
Eh ouais, ça fait du bien quand même de voir venir ce printemps. Les minutes filent et puis c'est déjà la fin de notre émission. Alors le printemps, lui, il va continuer tout le week-end, on en profite. Merci Olivier Ribaud d'avoir répondu aux nombreuses questions des auditeurs. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Belle journée, à bientôt.
Ben merci, mais à bientôt à vous aussi. Bonne journée.
Les jardinières seront donc de retour samedi prochain pour un nouveau rendez-vous jardinage. Et si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question ce matin, c'est pas la peine d'attendre notre prochaine émission. Vous pouvez le faire dès maintenant par SMS au 939 ou avec le formulaire présent sur nos sites. Vos questions seront bien sûr traitées en priorité samedi prochain dès 7h. Bon week-end ensoleillé et à la semaine prochaine.
Et bon week-end.
7h, 8h, les jardinières.